Bonjour chers auditeurs, bienvenue à Culture et Politique sur Radio Courtoisie, Richard Haddad au micro avec Pierre-Henri comme tous les lundis à 17h.
Et bonjour Richard, bonjour à tous les auditeurs, ravi encore de vous retrouver.
Aujourd'hui, nous allons parler de ce que le monde doit à l'Église, et pour ça, nous recevons Christophe Dickès, l'auteur du livre du même titre, pour l'Église, ce que le monde lui doit, aux éditions Perrin. Et donc, bon, merci Christophe d'avoir répondu à notre invitation
pour merci
ce livre
pour votre invitation.
Très intéressant. Et donc, je rappelle aux auditeurs, mais je pense que beaucoup d'auditeurs de Radio Courtoisie vous connaissent déjà, je rappelle que vous êtes historien, spécialiste de l'histoire de l'Église, particulièrement, et que donc vous avez déjà publié plusieurs ouvrages sur ces sujets. Et donc, votre livre donc, est paru depuis quelques mois, hein, ça fait un moment.
Ah oui, il y a plus d'un an maintenant.
Plus d'un an, le temps passe vite, on ne se rend pas compte. Alors, vous dites dans votre livre, l'Église n'a pas bonne presse. Alors, lorsqu'on l'évoque, on commence par les abus sexuels en général, dans les médias, lorsqu'on parle de l'Église, immédiatement, avec un petit sourire narquois, on fait allusion aux abus sexuels commis par son clergé, puis on évoque immédiatement après les scandales financiers, et pour finir, on parle des abus de l'Inquisition en les exagérant à outrance. Alors le procès de l'Église étant ouvert depuis un certain temps par le tribunal médiatique, vous vous êtes porté volontaire, j'ai l'impression, moi en tout cas, pour en être l'avocat, commis d'office en quelque sorte. On ne se bousculait pas pour défendre cette chapelle, mais alors votre livre est une sorte de plaidoyer de défense.
Hein, oui, alors je l'assume d'ailleurs absolument totalement. Ça ne veut pas dire que je nie ce que des hommes d'Église ont pu faire de mal dans l'histoire de l'Église, c'est une évidence. Mais je souhaitais mettre en valeur ce qu'elle avait pu et ce qu'elle a pu faire de bien et ce qu'elle fait d'ailleurs toujours bien dans l'actualité. Mais vous parlez du tribunal médiatique, mais c'est un tribunal anticlérical qui remonte à plusieurs siècles. L'idée la plus bête qui soit sur l'Église, c'est qu'il n'y a aucun débat, il n'y aurait aucun débat au sein de l'Église. Or, dans l'Église, il y a des débats dès les origines. En revanche, l'anticléricalisme va se cristalliser, la critique de l'institution va se cristalliser avec l'arrivée du protestantisme. Elle va se développer, bien évidemment, avec les mouvements anticléricaux le mouvement des Lumières du 18e siècle, puis ensuite le 19e siècle, jusqu'à atteindre son apogée, bien évidemment, au moment de la séparation de l'Église et de l'État. Mais pire que cela, je dirais, l'Église elle-même a voulu faire son mea culpa, a voulu faire sa repentance. La repentance est un exercice chrétien, c'est quand on va se confesser. Bien évidemment, on dit les fautes. Et le pape Adrien, pour convertir Luther, eh bien, a confessé les fautes de l'Église. Le pape Jean-Paul II l'a fait aussi. Mais on oublie de dire que le pape Jean-Paul II, quand il demande l'exercice de repentance, demande également à ce que la recherche historique mette en avant et valorise ce que l'Église a fait de bien dans son histoire.
Pierre-Henri ?
Alors oui, parce que vous évoquez en fait plusieurs sources un peu distinctes de cette légende noire, de cette critique de l'Église, dont la première remonte en fait à une contestation interne, c'est celle de Luther, qui conteste d'abord l'institution de pouvoir, en restant dans la foi. Alors, ça va donner une débranche du christianisme. Mais à partir du siècle des Lumières, en fait, on va sortir de la foi progressivement, parce que la plupart des voix qui vont colporter des ragots, des inventions, alors c'est par exemple la question de la non-reconnaissance de l'âme des femmes, qui a été colportée, entre autres, si je ne m'abuse, par Voltaire, mais je ne suis plus certain. Tout ça, ça vient de gens qui sont à minima des sceptiques, ou des agnostiques, voire de francs athées, et qui vont ajouter ce que le luthéranisme n'avait pas commencé, c'est-à-dire une vraie dimension d'attaque de la croyance et de la foi.
Exactement, d'où la séparation de la foi et de la raison. Alors que la foi et la raison sont articulées l'une et l'autre dans toute l'histoire de l'Église. Et c'est peut-être une des découvertes les plus extraordinaires. Alors, En soi, on a un regard très franco-français sur ces choses. Or, quand on voit des scientifiques étrangers, par exemple, beaucoup de scientifiques étrangers ont la foi. Un Einstein avait la foi, par exemple. La France est un cas un peu à part du fait de cette séparation. Et je suis toujours étonné de voir, j'ai eu encore l'exemple il y a 3-4 semaines hein, sur les réseaux sociaux, où, j'écrivais sur l'Église et je suis identifié comme un historien catholique, ce que je revendique, eh bien, je n'avais pas voix au chapitre et la foi et la raison devaient être séparées. Mais c'est absolument faux. En fait, le principe même de la science repose sur quoi ? Il repose sur la découverte de ce qu'est la nature. Or, ce qui se passe à l'origine de la science, c'est Oppenheimer qui disait qu'il n'y avait pas de science moderne sans christianisme. Pourquoi ? Parce que le christianisme veut découvrir la nature. En quoi il veut découvrir la nature ? Nous sommes en l'an 1000, Gerbert d'Aurillac est pape, Sylvestre II a reçu une partie de l'enseignement arabe. Il y a une science arabe, naturellement, on devrait aussi parler d'une science chrétienne. Pourquoi ? Parce que la science chrétienne, en l'an 1000, c'est une science qui, alors qu'on attend le retour du Messie et que le Messie ne vient pas, on cherche par d'autres moyens le divin. Et la meilleure façon de comprendre le divin, c'est de comprendre la nature. Et c'est une quête perpétuelle. Et c'est parce que c'est une quête perpétuelle que les scientifiques chrétiens existent à chaque siècle, jusqu'à nos jours. C'est une évidence. Vous savez, un homme comme Jacques Le Goff, ce livre est une transmission, en fait. J'ai la chance de rencontrer régulièrement des historiens, de côtoyer des historiens du christianisme, et en fait, je compile en quelque sorte leurs travaux, en les mettant en avant, les citant, parce que je respecte ces historiens, et un homme comme par exemple Jacques Le Goff, qui est un des papes de l'histoire, disait, et voyait dans la scolastique, trois apports essentiels à la tradition intellectuelle européenne. L'instauration du doute conduisant à la recherche. C'est la science, ni plus ni moins. Associée au fait que la démonstration est supérieure à l'argument d'autorité. Deuxièmement, l'idée que le savoir est une libération. Et troisièmement, le goût de l'ordre et de la clarté, ceci bien avant Descartes. Encore une fois, on parle d'une science arabe à juste titre, on devrait aussi parler d'une science chrétienne. Et alors, il se trouve que à l'heure où on enregistre cette émission, le week-end dernier, j'ai découvert un peu une exposition théâtrale. On passait d'une pièce à une autre. Il y avait une évocation de la vie de Jules Verne. Et on mettait en avant ce personnage Jules Verne. On met en avant, bien évidemment, Léonard de Vinci. Qui connaît Roger Bacon ? Personne ne connaît Roger Bacon. Et voilà ce que disait Roger Bacon. Nous sommes au XIIIe siècle. On peut réaliser pour la navigation des machines sans rameurs, si bien que les plus grands navires sur les rivières ou sur les mers seront mus par un seul homme avec une vitesse plus grande que s'ils avaient un nombreux équipage. On peut également construire des voitures telles que sans animaux, elles se déplaceront avec une rapidité incroyable. On peut aussi fabriquer des machines volantes, telles qu'un homme assis au milieu de la machine fera tourner un moteur actionnant des ailes artificielles qui battront l'air comme un oiseau en vol, etc. etc. On peut faire de nombreuses choses. Et donc ça, vous avez beau le prendre dans tous les sens, c'est ce qu'on appelle la science prospective, et c'est ce que faisait ce clerc du XIIIe siècle,
qui était franciscain, vous
Roger
vous rappelez,
Bacon, exactement. Et le père de la science expérimentale, c'est un clerc, c'est Robert Grosstete, c'était un des maîtres de Roger Bacon. Grosstete, ça ne s'invente pas, meurt en 1253. En fait, l'Église veut véritablement découvrir ce qu'est la nature. C'est pour cette raison que la science et la foi ne s'opposent pas, au contraire, elles se complètent. Et aujourd'hui, encore une fois, à l'étranger, beaucoup de scientifiques étrangers n'hésitent absolument pas à dire qu'ils ont la foi.
Pardon, Richard Haddad, mais il y a tellement de questions que c'est vrai que moi j'en ai 10, mais allez Richard.
Allez, on y va.
Non, alors je voulais aussi, deux choses, rebondir sur le fait que la légende noire de l'Église est très liée à celle autour du Moyen-Âge, de fait, parce que ce qu'on appelle le Moyen-Âge, qui dure quand même un bon millénaire, toute la culture, ou quasiment toute la culture, est portée par l'Église. Tout ce qui est sauvé de l'Antiquité est sauvé et ou récupéré par l'Église.
Oui.
Et tout ce qui va sortir du Moyen-Âge, et pas uniquement au niveau de la raison, de la rationalité, mais au niveau des arts, au niveau de la culture en général, et puis au niveau de la foi, ça vient de l'Église. Et alors, premier point. Et deuxième point, il est vrai que notre point de vue français peut être assez, assez troublant, parce que depuis quasiment 200 ans, c'est la haine de l'Église qui a, en gros, voix au chapitre, alors que la foi, même la plus simple, et on le voit dans le meurtre de Quentin de Ranque, qui a eu lieu il y a quelques semaines maintenant, quand vous avez la foi, vous êtes déjà suspect. Quand vous êtes catholique, vous êtes suspect. Mmh. Et vous êtes suspect des pires choses, c'est-à-dire vous êtes suspect d'obscurantisme, vous êtes suspect de réaction, vous êtes suspect de tout un tas de choses, parce qu'on est dans un pays qui a une histoire très particulière, qui n'est pas du tout la même, par exemple, en Angleterre ou en Italie. Et parfois, on a l'impression que le monde entier pense comme nous, mais ce n'est pas du tout le cas.
Exactement. Alors, peut-être je rebondis sur ce que vous dites d'abord sur le Moyen-Âge. Sur le Moyen-Âge, c'est évident qu'il n'y a plus aucun historien sérieux qui dévalorise le Moyen-Âge. Je citais Jacques Le Goff. Jacques Le Goff est un des grands personnages qui a véritablement réhabilité le Moyen-Âge. Et ceux qui opèrent en quelque sorte une coupure entre le Moyen-Âge et la Renaissance, bien évidemment qu'il y a une Renaissance. Mais au Moyen-Âge, il y a plusieurs renaissances. Il y a la Renaissance carolingienne, il y a la Renaissance urbaine qui permet l'essor notamment de ce qu'on appelle les cathédrales, dont on se demande encore aujourd'hui comment elles ont pu être construites au regard des techniques et de la qualité de ces techniques. Donc, en fait, aujourd'hui, il n'y a plus aucun historien sérieux, mais même pour ce qu'on a appelé les périodes obscures, c'est-à-dire l'Antiquité tardive, les Mérovingiens, etc., en fait, on a très peu de sources, et comme on a très peu de sources, on pense que c'était un temps obscurantiste, mais c'est absolument faux. Et Sylvain Guggenheim l'a très bien montré, les moines jouent un rôle de passeurs de la tradition grecque et de la tradition latine. Oui, il y a des textes qui sont mis de côté, oui, il y a des textes qui sont considérés comme moins importants que d'autres, c'est une évidence, mais à côté de cela, il y a une transmission. Et la plus grande des idées, d'ailleurs, qui est reprise par l'anticléricalisme et par Voltaire, c'est la question de la terre plate. C'est-à-dire qu'il y a un chrétien qui dit dans un concile que la terre est plate, il n'est absolument pas scientifique, et donc pour Voltaire, ça veut dire que tous les hommes d'église ont avancé au Moyen-Âge que la terre était plate. Mais ce personnage est absolument isolé et ne représente que lui-même. C'était un poète, c'était même pas un scientifique.
Comme l'homme des femmes,
voilà,
qui sort d'un propos misogyne dans un obscur concile à Mâcon, si je ne m'abuse.
Exactement. Les hommes d'Église à affirmer que la Terre est ronde sont très nombreux dans l'histoire de l'Église, et la liste se trouve dans il y a un petit ouvrage qui s'appelle La Terre plate, paru aux Belles Lettres par deux historiennes, et ces historiennes montrent bien ce continuum historique, et il n'y a absolument aucune coupure et aucune redécouverte au XVIe siècle que la Terre serait ronde.
Pour compléter ce que disait Pierre-Henri sur le fait que nous ne sommes pas, nous pensons toujours que le reste de l'Europe, du moins, pour ne pas dire le reste du monde,
est aussi anti-chrétienne que la France.
Je ne sais pas si vous le savez, mais il y a eu une étude sur l'athéisme dans le monde. Et il se trouve que la France est le deuxième pays le plus athée au monde. Je ne sais pas si vous le saviez.
Je ne savais pas. Voilà, ne savais pas, mais en fait, ce livre, d'abord, je l'ai écrit pour les chrétiens et les catholiques eux-mêmes, parce que je pense qu'il y a un défaut de culture historique chez les catholiques. Très peu de revues chrétiennes parlent d'histoire, malheureusement. Mais même les autorités de l'Église ne connaissent pas ou mal leur histoire. C'est Andrea Riccardi qui était un proche du pape François, qui disait « La culture ecclésiastique, celle des dirigeants de l'Église, est peu attentive à l'histoire et ne la considère pas utile pour comprendre d'où l'on vient et où l'on vit, ni pour gouverner l'Église. » Et donc l'histoire doit précisément servir aux autorités de l'Église pour comprendre la crise du temps présent. Parce que si vous ne prenez pas l'histoire comme profondeur, et là c'est le Bainvillien qui parle, si l'histoire n'est pas là pour nous éclairer, eh bien elle reste au fond un cabinet de curiosité ou une journée du patrimoine. L'histoire n'est pas là pour être un musée. L'histoire, elle est là pour, si on enseigne l'histoire aux enfants, c'est précisément pour les faire réfléchir, et essayer de comprendre notre temps présent afin de mieux envisager l'avenir. Et ce manque de profondeur historique que reproche Andrea Riccardi aux autorités de l'Église, eh bien, c'est un des problèmes de notre temps, parce que justement, si les autorités de l'Église avaient cette profondeur historique, elles verraient que, par exemple, la question de la pédophilie a déjà été traitée dans l'histoire de l'Église par un certain Pierre Damien, et que Pierre Damien donne toute une série de consignes dans les monastères afin qu'on lutte contre la pédophilie. Et donc tout cela, c'est important. Or, on a l'impression que l'Église d'aujourd'hui, en partie l'Église de France, est comme paralysée dans la crise du temps présent. Or, elle sort tira de cette paralysie si elle voit loin dans le passé afin de mieux envisager l'avenir.
On va faire une pause pour le Bobino et on reprend sur l'autre volet politique, sur l'État, l'élection, qui sont d'origine, d'après, comme vous l'expliquez dans votre livre, chrétienne.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Merci, on reprend donc cette émission sur l'Église. On parle de votre livre, Christophe Dicasse, Pour l'Église, ce que le monde lui doit, aux éditions Perrin. Donc deuxième volet, le cliché qui consiste à faire croire aux Français, au monde entier d'ailleurs, que la démocratie, l'État même, la politique serait née à partir de la Révolution française. Que vous rigolez, mais je vous assure que c'est présenté de cette sorte.
D'ailleurs, on dit le même mensonge sur la France.
Oui, absolument. La France n'existait pas avant 1789.
Le peuple français,
connu.
La nation française, d'accord. Ça n'existe pas.
Dans tous les cas, on nous explique que la démocratie a été inventée, donc éventuellement par les Lumières et puis mise en pratique à partir de la Révolution française. De même pour la notion de l'État, de la justice, de tout le fonctionnement que nous avons aujourd'hui. Alors, et vous cassez ce cliché?
Oui, je casse
livre.
Ce cliché.
Vous commencez par l'État déjà.
Le premier cliché que je casse, c'est, alors encore une fois, nous Français, nous séparons l'Église et l'État. Exactement. Nous sommes un des seuls États à le faire dans le monde et à ne pas reconnaître en France le christianisme pour ce qu'il est. Or, si vous voulez, la distinction entre l'Église et de l'État. C'est le pape Gélase, nous sommes à la fin du 5e siècle. Et ce qui caractérise nos sociétés occidentales et nos sociétés démocratiques, c'est précisément la distinction entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. L'Église et l'État. Distinction ne veut pas forcément dire séparation, j'insiste là-dessus. Et je viens de trouver un livre que malheureusement je n'avais pas vu, qui s'appelle Le vrai génie du christianisme, du juriste Arouel. Et dans ce livre, il montre bien ce que je viens de vous dire là, qu'il y a effectivement cette distinction qui caractérise
nos sociétés. Qui est antérieure à la Révolution française, que sous la monarchie...
qui est antérieure, complètement.
L'idée qui est véhiculée, c'est de dire, avant, sous l'Ancien Régime, le roi et l'Église, c'était une seule personne, ce qui est totalement faux.
Or, le propre des régimes totalitaires, c'est de lier le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel, c'est ce que disait Aron du communisme et du nazisme, où il parlait de ces religions laïques, ou ces religions...
Séculières,
voilà. Et donc... Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est l'État. C'est très important parce que pendant longtemps, les historiens disaient que, au fond, les États modernes, qui se construisent au 15e, 16e, 17e siècle, sont des États qui se construisent contre l'universalisme ou l'universalité de l'Église, à juste titre. Mais là où en quelque sorte la recherche à pêcher et point sur lequel elle revient et qu'elle met en avant, c'est que la notion d'État même, administratif, fiscal, eh bien vient d'un moment particulier de l'histoire de l'Église, qu'est la réforme grégorienne. Le mouvement centralisateur de la réforme grégorienne, nous sommes au 11e, 12e siècle, est un moment absolument central dans l'histoire des idées politiques qui est complètement réhabilité aujourd'hui. Et là encore, c'est l'Église qui est au centre de tout. Et donc, au fond, Philippe le Bel, avec ses légistes, eh bien, s'inspire du modèle réformateur grégorien pour construire un État centralisé tel qu'on le connaîtra bien plus tard. Et Philippe le Bel, c'est la figure véritablement de la distinction du pouvoir temporel et du pouvoir spirituel qu'on fait sa relation avec le fameux pape Boniface VIII. Pape Boniface VIII avec qui il rentre en conflit précisément sur l'espace en quelque sorte de pouvoir de l'État et l'espace de pouvoir de l'Église. Et jamais 203, le troisième point que je veux souligner, alors l'Église est moins, si je puis dire, responsable ou à l'origine de la démocratie que le système de vote. C'est-à-dire que l'Église a éprouvé absolument tous les systèmes.
Parce que j'allais
de
dire
vote.
Après l'État, la notion très importante, c'est la notion, enfin l'élection, la notion de vote, le système électif. Et là aussi, l'idée véhiculée et le cliché absolu, c'est de faire croire que la démocratie telle que nous la connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire le droit de vote, etc., le concept de vote, a été quelque chose de très très contemporain, très récent. Et là, vous démontrez dans votre livre que c'est la base même de l'Église.
Si on vote, c'est parce qu'on choisit. Oui. Si on choisit, c'est parce qu'on débat en amont. Pour pouvoir bien choisir. Et c'est précisément ce que fait l'Église. Quand vous allez visiter l'été prochain un monastère et que vous voyez une salle capitulaire, la salle capitulaire, c'est la salle du chapitre. C'est là où on discute. On vote à la seigneur par, c'est-à-dire ce sont les plus compétents qui disent les choses et qui votent, ou bien la meilleure part, c'est-à-dire à la majorité. Et ce système de vote, mais vote par acclamation, vote à la majorité, vote avec les plus qualifiés, tout cela, en fait, c'est véritablement l'Église. Alors, bien évidemment, l'Église va jouer, n'invente pas ces systèmes, mais elle va les développer. Et quand, en 1789, les hommes d'Église rentrent aux États généraux, ils votent depuis des siècles, en fait. Oui. Et ils savent parfaitement de quoi ils parlent. Ce sont peut-être les personnes qui savent le mieux de quoi elles parlent.
Vous dites aussi que l'Église, enfin, vous rappelez que le pape est élu.
Exactement.
On a l'impression que c'est un système que le Vatican a instauré avant-hier. Et donc, il a toujours été élu. C'est la première monarchie élective.
Exactement, c'est la première monarchie élective. Alors, il y en a d'autres dans l'histoire. Hein. Hugues Capet a été élu par les grands, bien évidemment. Mais le choix, en fait, le choix se fait par acclamation. Alors, le choix par acclamation a été supprimé par le pape Jean-Paul II, mais on pouvait acclamer tout de suite le nom, donner un nom pour choisir un pape. Et c'est finalement à la majorité des deux tiers, comme chacun sait, à savoir 89 voix aux dernières élections, à la dernière élection du pape, en l'occurrence le pape Léon XIV, qui a reçu 118 voix sur 133.
Et je crois qu'à ce sujet, c'est l'un des théoriciens, si on peut dire grossièrement, du trumpisme, qui est Curtis Yarvin, je crois, qui a écrit tout un livre qui s'appelle Le Paris bénédictin sur l'expérience de la démocratie dans les monastères.
Exactement.
Au Moyen-Âge.
Mais
si
les monastères sont allés plus loin parce que finalement, nous transpirons, notre civilisation occidentale transpire du monde monacal. Pourquoi ? Parce que, et c'est ce que rappelait le pape Benoît XVI en 2011 au Collège des Bernardins, il rappelle une chose toute bête, c'est que le travail était servile sous l'Antiquité. Et le travail étant servile sous l'Antiquité, il a été réhabilité par qui ? Il a été réhabilité par les moines. Ora et labora. Prix et travail. Et donc, notre conception même du travail, et il y a un travail de mémoire qui a été réalisé par une fille d'HEC, qui est disponible sur Internet, j'ai oublié son nom, mais que j'ai chez moi, et ce travail montre, et elle a reçu le prix de maîtrise, je crois, ou de parce que ce n'était pas une thèse. Elle a reçu le prix du meilleur travail dans son année d'HEC, et qui met en valeur précisément tout ce que le monde monacal a apporté à l'entreprise. Et au fond, moi, je suis moi-même un entrepreneur, la façon dont sont gérées énormément d'entreprises sont des façons monacales, en fond.
L'émission arrive à sa fin.
À mais son terme, bientôt.
Et je ne veux pas qu'elle se termine avant que l'on évoque deux, rapidement, parce qu'il nous reste à peine une minute et demie, deux sujets que vous traitez aussi dans votre livre sur les clichés. Enfin, c'est un peu mon obsession, moi, les clichés, des informations sur ces sujets. C'est le statut de la femme dans l'Église. Comme Pierre-Henri l'a rappelé, ça continue à véhiculer cette idée que pour les catholiques, pour l'Église, la femme n'a pas d'âme, inférieure, n'a pas d'âme, etc. Et aussi la laïcité. Parce qu'on a l'impression aussi c'est antinomique, que c'est quelque chose de complètement contradictoire, la laïcité et la religion catholique.
Alors, la laïcité, je l'ai évoqué tout à l'heure, mais la femme, c'est une question qui est extrêmement importante et au fond qui constitue une révolution chrétienne, dans la mesure où saint Paul nous dit il n'y a ni esclave, ni maître, ni homme, ni femme, et il y a une égalité devant Dieu. Et cette égalité, alors oui, elle sera remise en cause par des moines d'ailleurs, des moines qui veulent davantage lutter contre leur propre passion plutôt que contre les femmes, mais vous avez des textes absolument magnifiques qui valorisent la femme dans toute l'histoire, au point qu'un anticlérical comme Michelet disait à propos du Moyen-Âge 12e, 13e siècle que Dieu, c'est son mot exact, Dieu avait changé de sexe. Sous-entendu, la femme est au centre de la fin du Moyen-Âge, et ceux qui ont à nouveau une posture anti-féministe plus tard, ce sont les hommes de la Renaissance. Pourquoi ? Parce qu'ils redécouvrent les textes de la Renaissance, les textes antiques qui sont des textes qui sont contre les femmes.
Misogyne.
Aristote est misogyne, qu'on le veuille ou non, et on redécouvre Aristote en mettant la femme, au second degré par rapport à l'homme.
Merci beaucoup, Christophe Dickès, pour l'Église, ce que le monde lui doit, aux éditions Perrin. Merci encore.
Merci à votre
présence.
Bientôt.